Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You bellow what your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me,
bonsoir.
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 C'est la reprise du Canu Info. Il est 19h passé de 2 minutes 3. Et ce soir, on va parler de...
Ce soir, contre les scandales de corruption, le gouvernement turc limoge flics et magistrats.
Les aventures de Serge Dassault au Sénat.
Le nouvel Ops racheté.
Attaque de flics égyptiens contre le mouvement social.
Manifestation de soutien pour deux militants de la CGT.
Ensuite, ce sera faut que ça se sache.
Et puis, l'agenda... Non, ça c'est pas l'agenda. Manifestation à Paris pour l'élargissement de la PMA aux couples de femmes.
Et le droit à l'avortement menacé en Espagne.
Et puis un peu de météo, un peu d'agenda. Alors on attaque par la Turquie. Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. Et alors là, attention, Radio Canu est la seule radio qui prononce correctement le nom de ce premier ministre. Et pas Recep non plus. Donc Recep Tayyip Erdogan, fragilisé par les scandales.
On voit qu'il a tout ton respect en tout cas.
Ah ça, grave. Et ben c'est ça, c'est que du coup là, on a suivi un petit peu avant la Noël, le gouvernement turc s'est retrouvé au centre de plein de scandales, et plein de ministres qui ont été accusés de corruption, il y en a qui ont démissionné, etc. Mais beaucoup quoi. Et donc là, c'est le moment de la contre-attaque. Et donc le gouvernement vient de relever de leurs fonctions environ 350 policiers en plus, ça on parle de hier. Dont des responsables chargés de la lutte contre les crimes financiers. Cette charrette s'ajoute à des centaines de policiers qui avaient déjà été révoqués ou limogés au lendemain du scandale de corruption qui date donc du 17 novembre, et scandale qui avait touché l'entourage du Premier ministre et l'un de ses fils directement. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Efkan Ala, a signé un nouveau décret par lequel il congédie 16 hauts responsables de la police. Et donc, selon le comptage de la presse turque, on en est à 700 flics qui ont été limogés depuis les scandales le 17 novembre. Dans le même temps, l'un des principaux procureurs d'Istanbul chargé de l'enquête, qui s'appelle Zekeriya Öz, a été dessaisi et mis en disponibilité. Toutes les victimes de ce coup de balai opéré par le premier, opéré sur ordre du Premier ministre, sont soupçonnées d'appartenir à une certaine confrérie, alors influente semble-t-il, du prédicateur musulman Fethullah Gülen, que Erdogan accuse d'être à l'origine du scandale qui secoue la Turquie. Et alors en fait, cette espèce de confrérie semble-t-il était alliée de l'AKP, qui est le parti de Erdogan, pendant un certain temps, et puis ils sont embrouillés, on ne comprend pas exactement pourquoi. Et donc là, Erdogan est persuadé que les fonctionnaires qui vont faire des enquêtes sur les scandales financiers relèvent tous de cette confrérie et qu'ils le font pour lui nuire. En tout cas, on ne sait pas s'il en est persuadé, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit aux médias. Donc ce monsieur Gulen, lui, il vit en Pennsylvanie, et Erdogan lui reproche d'avoir constitué un état dans l'état, d'avoir ourdi une conspiration pour le faire tomber, et tout ça à 3 mois des élections municipales. Alors, outre la justice et la police, le pouvoir s'est attaqué à toute la fonction publique. Depuis plusieurs jours, de nombreux hauts fonctionnaires des ministères des Finances, de l'Éducation et des Transports ont également été virés. Le gouvernement gouverne, c'est ce qu'a dit aujourd'hui le vice-premier ministre chargé de l'économie, Ali Babajan. Nous ne laisserons personne remettre en cause la stabilité politique et économique de la Turquie. C'est ce qu'il a dit à la télé. Nous ferons de notre mieux pour l'empêcher. Dans le collimateur du pouvoir, il y a désormais l'une des principales institutions judiciaires, le Haut Conseil des juges et procureurs, qui a annoncé hier l'ouverture d'une enquête concernant les pressions exercées sur les magistrats chargés du dossier. L'AKP, donc le parti de Erdogan, a déposé hier soir au Parlement une proposition de loi qui limite les pouvoirs de cette institution, et le ministre de la Justice a fait savoir qu'il s'opposerait à l'enquête de ce Haut Conseil des juges. Le principal rival politique du Premier ministre, le chef de ce qui s'appelle le Parti républicain du peuple, le JHP, a dénoncé ses attaques contre les magistrats. Et voilà. Et donc tout ça se passe, rappelons-le, 6 mois après les manifestations populaires qui avaient quand même fait vaciller le régime. Et ce qui fait que scandale, plus grosse manif, plus etc. etc. Erdogan qui envisage de se présenter à la présidentielle qui devrait avoir lieu en août. On n'est pas si sûr que ça, que ça va marcher. Et par ailleurs, on a appris aujourd'hui que 36 personnes qui avaient pris part à ces manifestations ont été récemment arrêtées et inculpées de terrorisme, alors appartenance à une organisation terroriste, etc. etc. Et donc risque, selon les gens, sur ces 36 personnes, entre 3 mois et 36 ans de prison, je crois.
Alors, moi je vais vous parler de Serge Dassault, vous savez, le mec qui s'est enrichi en vendant des rafales à l'État pendant des années, ouais. Et qui maintenant...
C'est son père qui a commencé.
Ouais, c'est son père qui a commencé, il ne vendait pas des rafales son père, il vendait des trucs plus vieux que je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon, et qui a racheté il n'y a pas longtemps Figaro, tout ça. Donc, ce cher monsieur Dassault, c'est vraiment trop bizarre de s'entendre parler en même temps, est visé en ce moment par 2 enquêtes. Une première enquête lancée en mars 2013 par le parquet de Paris pour corruption, abus de biens sociaux, blanchiment et achat de vote aux élections municipales de 2008 et 2010. Le Conseil d'État, en effet, avait établi en 2008... Enfin, pour l'élection de 2008, du moins, qu'il y avait eu des dons d'argent en échange d'achats de votes de personnes des quartiers populaires, comme on dit. Et le juge financier en charge du dossier est chargé de savoir dans quelles limites ces achats de votes ont été faits. Deuxième affaire, c'est vendredi 5 janvier, Fatah Ou. Un des habitants de ces 10 quartiers qui porte plainte auprès du parquet d'Evry pour association de malfaiteurs. La procédure vise Serge Dassault, son successeur à la mairie Jean-Pierre Bechter, un employé municipal et un diplomate marocain. Alors cette affaire-là, elle a l'air assez rigolote, j'ai pas compris grand-chose, mais bon, c'est parce que ça a l'air d'être le bordel. En gros, Dassault aurait réuni tout ce beau monde dans un salon, en convoquant le dit diplomate marocain, avec pour but de faire arrêter le dit Fatah Ou à sa prochaine excursion au Maroc, en choisissant un prétexte quelconque. Donc voilà, tout ceci a lancé de la part des juges d'instruction une demande de levée de l'immunité diplomatique. Demande de levée de l'immunité diplomatique qui était étudiée cet après-midi. Alors, tout le monde pensait que ce serait qu'une formalité, le Sénat étant majoritairement à gauche depuis 2 ans. Comme ça, bon, on s'en fout. Seulement voilà, la demande de levée d'immunité n'est pas passée par 13 voix contre 12, avec une abstention. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que les 3 sénateurs communistes ont déclaré avoir voté pour la levée de l'immunité. Le sénateur du groupe RDE, donc les radicaux, ainsi que l'élu écologiste, a assuré au Monde d'avoir fait de même.
On en est à 5.
Et on est fort en maths dans le studio.
On est fort en maths dans le studio.
Noté quand même.
C'était marqué entre parenthèses au cas où on se trompe. Donc là où ça devient un peu bizarre, c'est que en face à droite, il y avait 10 membres de l'UMP et 2 de l'UDI. Donc, même s'il avait fait l'unanimité à droite, ce qui n'est pas sûr du tout, puisqu'un un sénateur UDI a déclaré qu'il avait voté pour la levée de l'immunité. En tout cas, même s'ils avaient tous voté pour, on serait à 12 voix pour, contre la levée de l'immunité, pardon, et
13 voix
pour. Seulement, c'est l'inverse. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui a voté contre? Qui a voté pour? Machin, tout ça. Enfin, c'est le bordel au Sénat. Ils se tapent tous dessus pour essayer de trouver.
Ça veut dire que chez les socialos, il y a quelqu'un qui a voté pour protéger Dassault.
Alors, ce que les gens disent, c'est qu'il y aurait au moins un socialiste, voire deux, qui auraient voté pour protéger Dassault. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins un élu de gauche, voire deux, qui a voté pour protéger Serge Dassault. La question, c'est qui? Parce que bon, après, moi, je comprends pas trop pourquoi les gens disent que c'est pas le sénateur communiste qui monte, mais bon, a priori... voilà, c'est parce que les communistes, ils sont barbus, on fait confiance aux barbus. Enfin, voilà, en tout cas, en ce moment, au Sénat, ça doit être sympa.
Alors, on va essayer de ne pas vous endormir sur Canu Info. Et donc, moi, je vais parler de la presse, pour continuer, et le Nouvel Obs qui a été, qui va être racheté par qui? Par Pierre Berger, Xavier Niel, qui est patron de Free, et Mathieu Pigasse. Les trois sont déjà propriétaires du Monde et donc vont racheter la majorité du Nouvel Obs. Et son fondateur Claude Perdriel en garderait le reste. Donc ces trois hommes d'affaires sont en négociation exclusive pour racheter cet hebdomadaire et cet achat effectué via leur holding LML, le Monde Libre, qu'ils détiennent à part égale et inclura le site d'information rue 89. Il est acquis il y a 2 ans par le Nouvel Obs. Et donc la participation des nouveaux actionnaires dans le magazine ne s'élèvera pas à 70% comme l'écrivent les Échos, mais ni la valorisation ni le pourcentage racheté ne sont pour l'instant connus.
En Égypte, alors l'info nous arrive aujourd'hui, mais elle date en réalité du 19 décembre. La police s'est introduite ce jour-là dans les locaux, enfin ce jour-là, ce soir-là, parce que c'était plutôt à 23h30, dans les locaux du Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux, dans le centre-ville du Caire. Elle a menacé l'un des membres de l'équipe en lui mettant une arme dans la bouche, elle en a frappé un autre, elle a ravagé les locaux de l'association et détruit tout son matériel. Ouais. 6 personnes, donc 6 membres de l'association, en réalité des salariés de l'association, ont été à ce moment-là arrêtés sans mandat et emmenés dans différents centres de détention qui ont été tenus secrets. Le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux, c'est un truc qui défend les droits des travailleurs et des citoyens égyptiens, donc plutôt laïque, plutôt mouvement ouvrier, quoi. Récemment, cette association s'est battue contre une loi qui limite le droit de grève, qui a été mise en place par le gouvernement intérimaire, donc le gouvernement qui a viré les frères musulmans et qui est le gouvernement d'aujourd'hui, quoi. Cette asso publie également des rapports critiques envers les politiques des gouvernements successifs et pointe les conflits entre les travailleurs et leur entreprise. Une activité que ne semble plus tolérer le régime actuel, pour qui, à l'évidence, le CESR, donc le Centre égyptien blablabla, apparaît comme une menace. Et c'est donc dans un climat de grande tension et de refus de toute critique venant de la société civile que le nouveau pouvoir égyptien en revient aux pratiques d'un état policier hérité de la dictature Moubarak. Suite à la descente policière, des avocats issus de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont interpellé le procureur général et lui ont signifié que sa responsabilité personnelle est engagée pour toute autre attaque qui pourrait avoir lieu. Et du coup, sur les 6 personnes qui ont été arrêtées, il y en a 5 qui ont été relâchées dès le lendemain. Parmi eux, Mohamed Adel, qui est porte-parole du mouvement des jeunes du 6 avril, qui a été l'un des mouvements très actifs au moment de la révolution en 2011 et de l'occupation de la place Tahrir. Mohamed Adel et 2 autres militants du mouvement du 6 avril, donc Ahmed Maher et Ahmed Douma, ont été condamnés le 22 décembre à 3 ans de prison et 50 000 livres égyptiennes d'amende. Motif invoqué, organisation de manifestations sans préavis et agression des forces de sécurité en charge de la protection du palais de justice lors d'une manifestation pacifique contre la constitution et les pouvoirs démesurés qui ont été donnés à l'armée le 30 novembre dernier. Une dizaine d'organisations dénoncent publiquement ce verdict, asséné sans preuve et sans enquête. Pour l'instant, sans véritable appui international, les violations des droits de l'homme à répétition en Égypte laissent entrevoir de sombres perspectives de retour à l'époque pré-révolutionnaire.
Et bon, on reste dans la lutte syndicale et ouvrière. Et là, c'est 500 militants qui ont défilé de la place Bellecour à la cour d'appel de Lyon en soutien à 2 de leurs camarades qui passaient en procès. Alors, ils étaient poursuivis. Pourquoi ? Vous allez voir quand même, c'est assez dingue. Ils sont poursuivis pour avoir tracté en août 2010. Alors, on se souvient, août 2010, c'était en plein pendant le mouvement des retraites. Et ils ont tracté au péage de Villefranche.
En août ? En octobre.
Ouais. Parce qu'en août...
Non, mais ils étaient précurseurs. Non, si, je vous jure, c'est en août 2010. Ouais.
C'est des syndicalistes. Ouais, il faut bien qu'il y ait des gens qui distribuent les tracts avant que les gens aillent dans la rue, sinon ça marche pas.
Ouais, mais quand même, pendant les vacances.
Eh mais non. Mais oui, justement,
pour préparer une rentrée sociale chaude.
Ouais.
Malin, c'était pas des étudiants qui, en août, de toute façon, sont en vacances.
Tu crois que c'est des glandeurs d'étudiants, quand c'est les vacances, ça y est, ils arrêtent le mouvement.
Voilà, vous venez d'assister à une petite discussion de comptoir du Canyon.
On n'a même pas de café.
C'est ça. Alors, bon, et ben vous allez me dire qu'ils ont tracté. Alors, on s'en fout. Et ben non, ben ils sont poursuivis pour avoir ça. Fait ça. En gros, ce qu'ils leur est reproché, c'est de ne pas avoir déclaré la manif. Bon, voilà, il faut quand même préciser que ce genre
Mais
de manif.
Tu veux dire qu'ils étaient 2 en manifestation?
Non, bah, je pense qu'ils étaient peut-être 5-6, ils ont peut-être foutu le bordel vite fait. Mais en plus, je mets a priori, ils n'ont même pas fait d'opération péage gratuit ou rien. Hein.
C'est vraiment juste un tractage à barrière, quoi.
Ouais, c'est le truc que tu déclares, enfin, personne déclare, quoi. D'ailleurs, c'est bien leur axe de défense, c'est bien là-dessus, c'est de dire qu'il ne s'agit pas du tout d'une manif, mais d'un tractage, et qu'un tractage ne se déclare pas. Ils avaient été relaxés en première instance par le tribunal de Villefranche, mais le parquet de Lyon a fait appel.
Ils sont dans le parquet de Lyon.
C'est ça, les militants. Ouais, bon, c'est un peu systématique, mais les militants tiennent à rappeler que c'est ce même parquet général de Lyon qui fait particulièrement du zèle, car c'est également eux qui avaient fait appel de la décision des 5 militants de la CGT de Rouen qui comparaissaient pour refus de prélèvement ADN. Ils avaient été relaxés en première instance et il n'y a pas si longtemps que ça, ont également été relaxés en appel. Et ben, tout ce qu'on souhaite à ces 2 personnes dont l'audience s'est passée cet après-midi, c'est à peu près le même sort que leurs camarades, c'est-à-dire la relaxe.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Bonsoir, on va commencer ce Faut que ça se sache par la lutte des réfugiés sans papier en Israël. C'est assez rare qu'on ait des infos, à part sur toute l'armada et l'organisation un peu incroyable contre les sans-papiers, les centres de rétention gigantesques dans le désert et les barrières qui se construisent au milieu aussi pour que surtout personne ne rentre en Israël. Et ben là voilà, il y a une loi qui a été votée le 10 décembre dernier. selon laquelle les migrants sans papiers peuvent maintenant être placés jusqu'à un an en rétention sans procès. Alors c'est quand même pas mal, ça va un peu je pense dans le haut du panier de ce qui se fait en termes de loi à l'échelle mondiale, enfin à ma connaissance en tout cas.
L'Angleterre est pas mal aussi. Hein.
L'Angleterre, ils ont pas un an sans procès quand même.
L'Angleterre, ils ont pas de durée limite par exemple, de rétention.
Ah, les CDI c'est encore mieux. Ouais. Alors au même moment à peu près du coup il y a un centre de rétention qui est surnommé Olot, je sais pas ce que ça veut dire mais c'est son surnom, qui a été ouvert, je crois que c'était juste quelques jours après la loi, dans le sud d'Israël. Il s'agit d'un centre semi-fermé, du coup il est ouvert la journée et les retenus doivent y pointer 3 fois par jour et y passer la nuit. Il est destiné officiellement à accueillir 3000 personnes, mais il a une capacité, en période de rafle intense, si l'envie leur en viendrait, d'enfermer jusqu'à 11 000 personnes. Ce qui fait aussi, je pense, un des plus gros du monde, quand même. Du coup, ce truc, ça fait partie du grand plan de l'arsenal répressif de ces frontières israéliennes, puisque du coup, ce que je disais tout à l'heure, il vient de s'achever en 2013 la construction d'une clôture électrique de 230 km de long au bord de la frontière égyptienne, afin d'empêcher les migrants, du coup, notamment l'Afrique de l'Est, les Éthiopiens, les Érythréens, etc., de circuler par ce passage.
En fait, c'est ça, ils s'entraînent avec les Palestiniens à faire des murs et des clôtures, et après, ça leur sert classiquement, comme à n'importe quel autre pays européen, par exemple.
C'est ça, à faire un château tout autour de leurs frontières.
Ils vont finir eux-mêmes dans une prison.
Bah, oui. Il semblerait que le gouvernement soit pas gêné par cette problématique, on dirait bien, quoi. Et du coup quand même, alors une petite note positive, je vous avoue que ça sera la seule de toute la rubrique, pour moi, pour ma part en tout cas. Mais du coup...
Moi j'en ai.
Ah cool, ça va faire du bien. Le 15 décembre dernier, soit quelques jours seulement après l'ouverture de ce centre, il y a quand même 282 sans-papiers qui se sont fait la malle directement de centre de rétention de Olot. Ils ont aussitôt manifesté contre les conditions de vie des réfugiés politiques dans le pays. Et là, on arrive au mois de janvier, où là il y a eu un enchaînement et qui commence à devenir un petit peu intéressant et qui fait plus plaisir. Ça commence dimanche dernier, le 5 janvier, a débouté un grand mouvement de protestation. Il y a plus de 30 000 réfugiés sans papier qui ont manifesté contre les politiques racistes de l'État israélien et l'enfermement en centre de rétention de centaines d'entre eux. Ils ont déambulé dans le centre de Tel Aviv en criant « Nous sommes tous des réfugiés, oui à la liberté, non à la prison, etc. » Ce genre de slogan un petit peu. Bien sûr, là-bas, ils servent de main-d'œuvre à faible coût pour le patronat. Hein. De toute façon, c'est toujours dans l'intérêt de tout le monde. Du coup, notamment, et c'est un peu le même cas qu'en France, dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de se mettre en grève et d'occuper leur lieu de travail. Le lendemain, lundi, ils ont manifesté devant de nombreuses ambassades occidentales. Il y a eu aussi une manif le mardi. Et enfin, aujourd'hui même, il y a plus de 10 000 personnes qui se sont rassemblées, cette fois devant la Knesset, c'est le Parlement israélien. Le président du Parlement, Yuli Edelstein, a interdit l'entrée de la Knesset à 4 représentants des manifestants, qui avaient pourtant été invités à une rencontre par des députés à l'intérieur. Dans un communiqué, Edelstein a justifié sa décision en expliquant qu'il voulait ainsi... je cite, éviter des provocations susceptibles de dégénérer en violence et en désordre. Mais oui. Il se heurte surtout, ce mouvement, à l'oreille sourde de ce fourbe de Netanyahou, qui a prévenu que leur manifestation ne servirait à rien. Lors d'un rassemblement, du coup c'était mardi, ça à Tel Aviv, les représentants des protestataires ont tout de même affirmé que le mouvement se poursuivrait jusqu'à ce que le gouvernement annule cette législation controversée. Et leur accorde surtout, bien sûr, le statut de réfugié politique. En tout cas, les autorités israéliennes estiment à 52 000 personnes le nombre d'Africains qui seraient entrés clandestinement et qui sont encore à l'intérieur des frontières du pays. Et ils ont lancé depuis 2012 une campagne qui a abouti déjà à l'expulsion ou au départ volontaire de, parce que juste c'est insupportable, de quasiment 4 000 personnes.
Il faut que ça se sache.
Ah, et ben moi j'ai des bonnes nouvelles. Et ben, comme d'habitude quand même, les bonnes nouvelles à propos des centres de rétention viennent souvent, même souvent de l'Italie. Et là, et ben ça y est, c'est officiel, c'est tombé. Le CIE, alors c'est l'équivalent des centres de rétention, comme en France, de Modène est fermé. Et attention, il est fermé définitivement, c'est-à-dire qu'il rouvrira jamais. C'est sûr maintenant. Il avait été fermé pour travaux depuis cet été. Il avait été fermé notamment à cause de nombreuses révoltes. Ce qui fait quand même 60 places en moins dans le dispositif d'expulsion. C'est quand même vraiment pas mal. Au niveau du centre de rétention de Milan, lui, il est fermé, mais bon, temporairement, mais c'est quand même pas mal. Pour rappel, il avait été inauguré le 8 septembre dernier par d'importantes révoltes et plusieurs incendies. En novembre, il ne restait plus que 28 places sur les 132, comme ils avaient vraiment la classe. On n'a pas de date de réouverture pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est plus la Croix-Rouge qui aura la gestion de ce centre. Un appel d'offres va être fait et comme vous vous en doutez, l'association qui sera sélectionnée ne sera pas celle qui va défendre le mieux les personnes enfermées, mais celle qui aura un prix par retenue le plus bas, autrement dit celle qui aura le pire des services. Bon bah quand même, pour ces deux centres, ça fait quand même 192 places en moins. Ce qui est quand même plutôt pas mal.
Ce qui est quand même plutôt bien.
Respect aux retenues des centres de rétention italiens.
Il faut que ça se sache.
Et on va rester en Italie, malheureusement. Enfin, du coup, ça bouge toujours en Italie, mais là, c'est quand même pas les meilleures nouvelles qu'on puisse avoir. C'est un petit flashback, puisque du coup, c'était fin décembre que ça s'est passé, mais on n'a pas fait cette rubrique depuis quelques temps. Du coup, c'était fin décembre. Et bien, en fait, dans un centre de rétention, avec une petite aiguille et du fil extrait de leur couverture, il y a une dizaine de personnes qui se sont cousues les lèvres pour protester contre leur détention dans le centre d'identification et d'expulsion, c'est ça les CIE, de Ponte Galeria, qui est situé dans la banlieue de Rome. Tous, du coup, après, ont refusé qu'on leur enlève le fil qui relie leurs lèvres, mais du coup, qu'ils peuvent quand même boire avec. Enfin, il y a juste un point au centre de la bouche. Et du coup, en plus de cette action spectaculaire, les migrants mènent également une grève de la faim. Et en plus de ça, du coup, il y a une polémique qui a éclaté à la même période en Italie, suite à une vidéo qui est sortie du CIE de Lampedusa, cette fois, et qui montre ce qui a été baptisé une désinfection sauvage. En gros, on y voit plusieurs personnes nues dans la cour, là, en plein hiver, qui se font asperger par les flics, un peu comme gazés, là, avec du produit contre la gale, sans considération, sans intimité, sans rien. Ils sont vraiment au milieu de tout le monde. Enfin, c'est vraiment un peu trash à regarder. Et, du coup, comme un peu d'habitude ce qui se produit sur style, bah, du coup, l'Italie s'est indignée. Mais bon, ça change toujours rien, puisqu'il n'y a pas d'action qui vont derrière pour essayer de changer les conditions à Lampedusa. Cette fois-ci, quand même, il y a une personne qui s'appelle Khalid Chaouki, qui est député du Parti démocrate, plus, un peu plus la gauche, là, et qui visiblement est d'origine marocaine, qui a visité le centre de Lampedusa et qui s'est barricadé symboliquement à l'intérieur le dimanche suivant l'apparition de la vidéo, pour, selon lui, maintenir le focus médiatique sur cette situation.
Il faut que ça se sache.
Et on va finir ce Faut que ça se sache par ce qui se nomme la fin de la période transitoire pour les Roumains et les Bulgares en Europe. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, il y a eu pas mal de trucs un peu faux, et même beaucoup faux, qui ont été dits, et des trucs alarmistes, et tous les fantasmes de d'habitude qui sont véhiculés par rapport aux Roms, et par rapport à, surtout, leur entrée dans l'Union Européenne. Dans les faits, c'est quoi qui va se passer? Ben du coup, les Roms et les Roumains et les Bulgares, là, du coup, sont citoyens européens depuis 2007. Et ceux qui vivent en France verront enfin lever les restrictions qui leur étaient opposées pour accéder à un travail salarié. Pendant 7 ans, les gouvernements français successifs ont maintenu ces restrictions, alors même que la plupart des États membres de l'Union européenne y avaient déjà mis fin. Sans que, bien sûr, ça ait aucune incidence négative dans les pays en question. En reconnaissant à ses citoyens européens les mêmes droits qu'aux autres, la France ne leur fait donc pas une faveur, elle est juste forcée par des textes de loi européens. Les réalités que vivent au quotidien les Roumains et les Bulgares ne vont bien entendu pas changer du tout au tout, là, le 1er janvier, hop, ça y est, c'est la fête. C'est juste la fin des mesures transitoires qui ne concernaient que le travail salarié, mais qui ne remplacent pas du tout la nécessité de changer de politique pour que, enfin, l'ensemble de leurs droits s'arrête d'être bafoués. Et du coup, c'est la même situation qui se passe en Allemagne et qui est elle aussi contrainte d'adopter cette réforme européenne bien à contre-cœur. Mais en Allemagne, il y a un truc qui s'est passé aujourd'hui, là, il y a un slogan qui a émergé, qui est porté par la droite conservatrice du CSU. Alors, en gros, c'est le parti de Merkel. Merkel, c'est le CDU, mais c'est à peu près la même chose, si je comprends bien.
Le CSU, c'est la version bavaroise de ce parti.
Ouais, c'est juste ça, en fait.
Qui n'a pas exactement le même nom, parce que, de fait, ils sont quand même plus, historiquement, vraiment plus faf que la droite classique allemande.
Eh ben, ça se vérifie, puisque, du coup, leur slogan, là, vous allez voir, est extrêmement subtil. Ils ont dit aujourd'hui, qui triche, dégage. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si des personnes d'origine bulgare ou roumaine restent à présent sur le territoire, mais sans emploi, eh ben, ils doivent être expulsés, car il et elle, maintenant c'est sûr, sont là uniquement pour profiter des aides sociales, mirobolantes, et profiter des splendides bidonvilles de l'Europe de l'Ouest. Du coup là, c'est effectivement clair, c'est juste profondément raciste. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que les dirigeants de toute l'Europe et une grande partie de sa population perçoivent le peuple rom. Ce serait juste des parasites, des feignasses, incorrigibles, invétérés. Personne du coup ne parle plus, enfin c'est très rare, ou alors ils sont vraiment de gauche quoi, d'un peuple qui est juste persécuté dans ses terres d'origine, qui cherche juste à améliorer ses conditions de vie. Et puis surtout, personne ne pense que, bah, une fois autorisés à travailler légalement, ils préféreront cette situation plutôt que de faire la manche en hiver pour survivre ou d'habiter dans des cabanes, dans la boue. Enfin, ça reste quand même un non-choix. Enfin, enfin voilà, j'ai envie de dire bonne année.
Il faut que ça se sache.
Eh ben, pour la bonne année, on va s'écouter une chanson du Sous-Marin en duo avec Fils du Béton pour vous souhaiter la bonne année.
3, 2, 1. Qu'est-ce que tu veux, bonne année? Bonne année, ton année. Le Seigneur, ouais. T'as ma mère, Rio. Bonne année. Bonne année. Meilleur feu, les bleus. On se fait la bise autour d'un pneu en feu. Bonne année, les flics. Ambiance de fin de république.
Bonne année.
Grand-mère,
bonne année
Jean-Pierre, bonne année la France, ou peut-être l'inverse, nique sa mère. Bonne année monsieur le président,
dans moins d'un an.
Bonne année Carla,
ça va t'arrêter là à bras.
Bonne année les cons, bonne année les Playmobil. Les gens s'agitent dans tous les sens, ils sautent au sus le nombril. Toujours consommer plus, à s'en rendre débile. S'envoyer en l'air dans tous les sens, s'en foutre plein les narines.
Bonne année
Jean-Marie et Marine, sauver le bon français de ses voiles, ses épices, sa mélanie. Bonne Saint-Sylvestre à tous mes CRS, dans la tête, cocktail Molotov et barbecue de caisse. Bonne année Marianne, 20 plus 12 bananes. Dans les salons d'Elysée pour une douche au champagne. Compte pas sur les gens ils pensent qu'au pognon. C'est pas en tournant autour de ton fion tu feras ta révolution. De belles résolutions. Bonne année les moutons, arrivistes, profiteurs, grands racistes et vieux croutons. Bonne année aux grands héros.
Euro.
Bonne année la crise, vive le trafic et les bises. Bonne année, on se fait la bise autour d'un pneu en feu. Va crever plus loin, chacun pour soi et meilleurs vœux. Année. Fils de pute, allez tends-moi la main que je t'entraîne dans ma chute. Me fais pas la bise, erreur sur la marchandise. J'suis une tête de con, quoi qu'on en dise. Le jour de l'an, ça sent les cambriolages. Capuché, comme pendant un jour d'orage. Me parle pas de résolution et garde le sourire pendant les dernières convulsions. J'représente ceux qui vont grailler tout seuls, mais qui vont fermer leur gueule. Ça sent l'odeur du cercueil. Bonne année. Ça sert qu'à nous mettre l'œil. Alors meurs comme un chien. Meilleur vœu. Mon merveilleux. La santé, l'hosto, l'argent, la dèche. Allez à la pharmacie si vous cherchez de la neige. Compte pas sur les gens ils pensent qu'au pognon. C'est pas en tournant autour de ton fion tu feras ta révolution. De belles résolutions. Bonne année les moutons, arrivistes, profiteurs, grands racistes et vieux croutons. Bonne année aux grands héros.
Euro.
Bonne année la crise, vive le trafic et les bises. Bonne année, on se fait la bise autour d'un pneu en feu. Va crever plus loin, chacun pour soi et meilleurs vœux.
Parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient, et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Si c'était bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année, mon cul.
Et pour continuer ce Canu Info, je vais parler d'une manifestation qui a eu lieu à Paris lundi pour l'élargissement de la PMA aux couples de femmes. Donc il y avait 200 personnes qui se sont rassemblées à l'appel notamment de l'inter-LGBT, mais de nombreuses autres assos, et notamment des assos de lesbiennes, pour réclamer l'élargissement du droit à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Donc elles ont manifesté près du ministère de la Famille pour exiger que le gouvernement tienne ses engagements sur la PMA, parce qu'en effet François Hollande s'était engagé au printemps à suivre l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique, le CCNE, sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Mais cet avis ne sera pas connu avant mars, alors que le projet de loi Famille devrait être présenté au Conseil des ministres avant les municipales. Donc pour une décision devant le Parlement à la fin du premier semestre 2014. En gros, encore une manière pour ce gouvernement de se défausser tout en continuant à parler. Eh bien, comme on le suit depuis le 20 décembre, le droit à l'avortement est gravement menacé en Espagne. Et il va y avoir un rassemblement à Lyon ce samedi 11 janvier, donc pour soutenir l'avortement et soutenir pour être contre le gouvernement espagnol. Donc je fais vite fait un petit récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas suivi. Donc c'est une loi du gouvernement conservateur espagnol qui limite fortement l'interruption volontaire de grossesse et annule la loi de 2010 qui autorisait l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse et jusqu'à 22 en cas de malformation du fœtus. Ce qu'il faut dire, c'est que 14 semaines, c'est plus qu'en France et c'était un des pays d'Europe où il y avait la plus grande marge de manœuvre pour pouvoir avorter. Si ce texte est approuvé par le Parlement où le Parti populaire détient la majorité absolue, l'avortement ne sera plus un droit et ne sera autorisé qu'à deux conditions, donc en cas de viol et à la condition que la femme ait déposé plainte ou de grave danger pour la femme. Et le texte impose que le diagnostic soit émis par deux médecins différents et étrangers à l'établissement pratiquant. Autant dire que ça fait peu d'espace. Et cette loi rétablirait aussi l'obligation d'autorisation parentale pour l'avortement d'une mineure. Le projet de loi doit encore être débattu dans les deux chambres du Parlement avant d'entrer en vigueur. Bien évidemment, en Espagne, il y a eu pas mal de manifestations, de protestations. Et du coup, en solidarité avec les femmes espagnoles et du coup contre cette loi, de nombreux rassemblements sont prévus dès cette semaine dans différentes villes de France, à Lyon, Clermont-Ferrand, Lille, Perpignan, Poitiers, Toulouse, Nice, Montpellier et Bordeaux, Nantes, Marseille. Et j'imagine dans plusieurs autres petites villes, mais voilà. Donc je répète, le rassemblement à Lyon a lieu à 14h30 samedi devant la mairie de Villeurbanne, métro A, arrêt gratte-ciel.
Viendez. Météo.
Jingle the highway. Alors qu'une vague de froid historique frappe les États-Unis avec des conséquences tristes et inattendues, comme par exemple ce fugitif qui a été contraint de se rendre le lendemain de son évasion car il était dans sa tenue de prisonnier, logique. Vous voyez, les tenues de prisonnier aux États-Unis, c'est juste un espèce de gilet et un pantalon très 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 léger. Et par moins 20 degrés, il a eu beaucoup trop froid. Du coup, il a décidé de se rendre. Voilà, c'est dommage pour lui.
C'est nul le froid.
Ouais, non, ça fait vraiment chier. Mais par contre, un tout petit peu plus positif, un SDF qui avait été pris en photo par un journaliste pour faire la une d'un journal papier, pour comme ça dire, regardez comme il fait froid, les gens sont en danger, tout ça, tout ça. Et ben, ce SDF a été reconnu par sa sœur, qui a alors contacté le journal, et les deux personnes se sont retrouvées, tout ça.
Oh, c'est mignon. Beau.
C'est trop mignon.
Vive la famille.
Voilà. Je pense qu'après ça, il y a quand même, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de SDF qui vont crever de froid aux États-Unis.
Mais oui, bah, ça va. Hein.
En ce qui concerne Lyon, si je peux donner un conseil aux prisonniers qui ont envie de se faire la belle, profitez-en, il va continuer à faire beau.
Et ouais, barrez-vous.
Jeudi, un matin ensoleillé avec des températures qui iront à 13 degrés, c'est pas mal quand même. Et l'après-midi, des températures resteront stables avec un ciel qui se voilera très très légèrement, je vous rassure. En soirée, des nuages feront leur apparition et le thermomètre tombera à 9 degrés. Vendredi, les températures iront de 7 degrés le matin à 10 degrés l'après-midi. Du soleil est à prévoir sur toute la journée, avec l'apparition de quelques nuages durant la journée quand même. Samedi, ben, on continue sur un ciel plutôt clément, avec de très belles éclaircies, mais des températures en légère baisse, avec 6 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Dimanche, le soleil continue, mais les températures tomberont très légèrement, avec 8 degrés l'après-midi. La tendance de la semaine prochaine, des températures en dessous de 10 degrés et la pluie prendra la place du soleil.
Et pour finir ce Canu Info, le petit agenda.
Les associations Ahlan, Malish et le collectif Pushka présentent le festival Révolution R sur les révoltes et les cultures urbaines arabes. Du 25 janvier au 11 février 2014. Projections, concerts, expo photo, table ronde, atelier calligraphie. 18 jours d'événements pour faire de Lyon une caisse de résonance aux changements en cours dans le monde arabe. Seront présents pour la première fois à Lyon Hind Medeb, DJ Figo, Boycott, DJ Sotosura, Dib, Clay BBG et Phoenix. Retrouvez toutes les infos et la programmation sur nos sites internet revolutionair.com ou sur notre page Facebook Revolutionair.
Et pour continuer, il y a une soirée de soutien au projet de centre social autogéré qui devrait se mettre en place dans les prochains mois à Lyon. Donc ça serait un nouveau lieu ouvert à tous et toutes. C'est une volonté de créer ce lieu qui implique son indépendance vis-à-vis des institutions et ainsi son autonomie financière. Et donc un fonctionnement autogéré, des expérimentations collectives. Et donc, pour faire des sous, les personnes qui veulent créer ça convient à une projection du film Looking for Eric le vendredi 10 janvier à 19h30 à La Plume Noire. Et il y a également une projection débat autour du film Les Amoureux au banc public. Ce film a été réalisé par Nicolas Ferrand et c'est donc l'histoire de 13 couples franco-étrangers qui décrivent leur parcours de combattants pour se marier, faire transcrire un mariage célébré à l'étranger, obtenir un visa pour la France ou bénéficier d'un titre de séjour. Et ça sera mardi 14 janvier à 19h au CCO de Villeurbanne.
C'est fini ?
C'est fini.
On a fini.
Waouh !
On espère en avance.
Donc on va finir en avance.
Il est noir, on va être content. Quand même.
Eh ben très bien, on vous